On voit que tout ça est en train de s'agiter, tout ça est en train de bouger. Les cartes sont rebattues largement et sur fond de guerre économique, sur fond de tensions sur des ressources stratégiques, sur fond de montée en puissance de nouveaux acteurs, de mauvais choix stratégiques certainement aussi qu'ont fait notamment les États-Unis en se perdant dans des guerres, etc. Plusieurs conflits en Irak ou en Afghanistan, etc. Et par ailleurs, il y a un autre élément dont on va beaucoup plus parler, qu'on a commencé à aborder au début de l'interview, qui est que ce qu'on pourrait presque appeler le terrain de jeu, qui jusqu'à présent était stable, c'est on va dire le monde climatique, écologique, qui ne pesait pas lourd entre guillemets dans les affaires humaines, ou en tout cas qui était considéré presque comme secondaire, est en train de se rappeler à nous. Donc quand on parle de risque climatique, c'est ça dont il s'agit, c'est-à-dire que tout d'un coup, il peut y avoir des événements majeurs type cyclone, inondation, feu, sécheresse, etc., qui viennent complètement perturber un certain nombre de choses qui normalement sont considérées à peu près comme stables, en tout cas dans l'histoire récente. Je voudrais qu'on parle de ça pour comprendre qu'est-ce qui se joue, comment est-ce que c'est anticipé et qu'est-ce qui va nous tomber dessus, a priori, notamment dans un futur très proche, alors qu'il y a un phénomène qui se met en place qui s'appelle El Niño, qui vient accentuer tout ça, et sur lequel vous venez d'écrire un livre. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette évolution, précisément, du terrain de jeu, et quelles sont les catégories de risques, entre guillemets, qui sont identifiées entre les risques géopolitiques, un peu par grande zone, on pourra prendre le temps de déployer par zone, et puis les risques internes aussi qui existent dans chacun des pays. On pourra tirer des fils.
Alors en fait, là, vous mettez le doigt pile sur mon inquiétude majeure. Et mon inquiétude majeure, c'est justement cette fusion. Jusqu'à présent, je parlais de convergence, mais maintenant, je crains fort qu'on parle de fusion entre les conflits géopolitiques et les risques climatiques, ou même, j'aime autant parler de risques bioclimatiques. Pour moi, il y a un vrai basculement en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que le déclenchement de la guerre en Ukraine a des effets sur la sécurité alimentaire, parce que du fait de la guerre, les Ukrainiens ne parviennent pas à exporter leur production de céréales sur les marchés internationaux, ou du moins très peu. Et du fait des sanctions, pendant plusieurs mois, la Russie ne exporte beaucoup moins de ses céréales. Sachant que les deux pays combinés représentent 30% des exportations de céréales au niveau international, on voit le problème. Or, dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine, on a vu aussi se déployer une série de d'événements climatiques extrêmes qui ont eu un impact très lourd sur un certain nombre de grandes zones de production agricole, que ce soit l'Inde, dont la production a quand même baissé de 20% et qui a amené l'Inde à ne pas exporter sa production agricole pendant plusieurs mois, la Chine qui a connu un désastre en termes de récolte de riz en 22, l'Argentine et le Brésil dont les productions ont baissé. Bref, ça, il y a vraiment dans le Midwest américain qui est affecté depuis plusieurs années par une méga sécheresse.
L'Espagne aussi, je crois qu'elle a eu 80%.
Alors l'Espagne, j'y viens tout de suite après sur l'Espagne. Hein, donc, mais 2022, donc il y a vraiment une convergence entre les effets géopolitiques de la guerre en Ukraine et les effets du changement climatique sur les grandes zones de production agricole. Or 2023. Effectivement, à partir du printemps 2023, les grands centres de météorologie repèrent le retour d'El Niño. El Niño, donc, c'est un phénomène climatique cyclique qui a lieu tous les 2 à 6 ans. Pour dire les choses simplement, c'est une énorme flaque d'eau chaude qui se répand à la surface de l'océan Pacifique, en particulier dans la zone équatoriale et tropicale. Et cette énorme flaque d'eau chaude, elle a un système, elle a un effet de réchauffement climatique très fort pendant une courte période, hein, 1 à 2 ans en général. Cette fois, ça risque d'être pendant 1 an. Mais le gros problème, c'est que le El Niño 2023 est suffisamment fort pour avoir un effet de détonateur, littéralement, sur le changement climatique. El Niño 2023 vient, j'ai envie de dire, surcharger, turbocharger le changement climatique, et ça, croisé avec d'autres phénomènes, fait que en février 2023, le changement climatique était l'équivalent de plus 1,2 degré de température moyenne à l'échelle du globe. Et là, début janvier, on est arrivé à plus 1,5. On est aujourd'hui dans ce que les climatologues établissent comme la zone de danger.
Ce qu'il ne fallait surtout pas dépasser aux accords de Paris.
Voilà. Et il paraît envisageable que on dépasse plus 1,5 degré pendant au moins quelques mois, le temps que El Niño passe, en espérant qu'il passe rapidement. Or, le problème et l'intérêt de ce moment El Niño 2023-2024, c'est qu'il nous fait faire une excursion dans ce monde à plus 1,5 degré. Et cette excursion, elle a lieu à un moment où, comme on l'évoquait, la géopolitique mondiale est en surchauffe. Et moi, ma crainte, qui est aujourd'hui plus qu'une crainte, puisque c'est en train d'avoir lieu, c'est que on voit les conflits géopolitiques, entre guillemets, classiques, que ce soit la guerre en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient, c'est-à-dire, quand je dis classique, c'est que ce sont des phénomènes politico-militaires qu'on peut analyser. Mais moi, ma grande crainte, c'est que il n'y ait une convergence de conflits géopolitiques classiques avec ce qu'il va bien falloir appeler des conflits pour la survie. Par exemple, si on regarde ce qui se passe dans la gigantesque zone sahélienne, où on a quand même, je crois, près de 200 millions de personnes qui vivent dans un environnement très aride, qui continue de s'aridifier. Les points d'eau sont de plus en plus contrôlés, soit par des groupes djihadistes, soit par des groupes de criminels armés, les deux pouvant d'ailleurs fusionner. Et le contrôle des points d'eau, c'est très littéralement de la guerre pour l'eau. D'accord ? Et ce qu'il faut se demander, c'est que va-t-il se passer ? On a la bande sahélienne qui est en train de devenir ce que j'appelle une zone d'invivabilité. Ben, quand on vit dans un lieu invivable, on part. Que va-t-il se passer si des dizaines de millions de personnes partent ? C'est une question qui, à mon avis, est une hypothèse qui est forte et qu'il faudrait poser rapidement, de façon à pouvoir la penser de façon rationnelle et non pas face à la crainte de submersion. Il faut être beaucoup plus rationnel, il faut penser les menaces qui arrivent de façon à ne pas faire n'importe quoi face à ces basculements qui peuvent avoir lieu rapidement. Et moi, ma crainte, elle est là. C'est-à-dire que le changement climatique est en train de s'emballer, les tensions géopolitiques se multiplient et s'intensifient rapidement, ces deux moteurs de tensions et de conflits convergent, voire fusionnent déjà dans pas mal d'endroits. Face donc à cette montée des périls que j'appellerais les périls climato-stratégiques, eh bien, il va falloir que on les anticipe, qu'on fasse de la bonne prospective stratégique de façon à trouver des réponses. J'insiste sur les sur la notion de réponse. Je commence à avoir beaucoup de mal à supporter la notion de solution. Hein, on n'est pas dans Pif Gadget. Le changement climatique, ça va pas être résolu par trois super gadgets qui vont être trouvés je ne sais comment. Il va falloir trouver des réponses à court, moyen et long terme. Hein, des réponses adaptatives. Et donc, ma grande crainte, c'est que ce El Niño 2023-2024, il nous fait expérimenter un monde où les conflits géopolitiques et les risques climatiques sont en train de fusionner, et il faut utiliser ce moment pour le comprendre et pour pouvoir anticiper ce qui risque de nous arriver après 2030, de façon à ne pas subir ce monde qui risque d'être hostile, mais au contraire, de s'y adapter de façon active et de l'aménager.
On peut aller dans le concret pour voir ce que ça donne, en fait, de la bonne anticipation. Est-ce que, par exemple, les Chinois, qui ont l'air pas trop mauvais là-dessus, sur une capacité, en tout cas, à penser le long terme, mettent en place des choses pour anticiper les inondations futures, la fonte des glaciers himalayens, la baisse des rendements, voilà. Et qu'est-ce qu'ils anticipent, d'une part, comme événement, et qu'est-ce qu'ils anticipent comme conséquence de ces événements qui seront potentiellement à gérer?
Alors, déjà, quand on parle de la Chine, je me permets toujours de rappeler une évidence. On parle d'un pays d'1,4 milliard de personnes qui connaît des transformations absolument gigantesques, notamment du fait de l'urbanisation. Actuellement, la Chine vit sa deuxième vague d'exode rural, ce qui fait que entre 2015 et 2025, les autorités politiques chinoises, tant au niveau national que provincial, doivent absorber un exode rural de plus de 250 millions de personnes. Donc, on voit l'ampleur des défis auxquels est confrontée la Chine. Par ailleurs, j'aime bien dire que les Chinois ne sont pas postmodernes, au sens où, pour eux, les questions matérielles, l'alimentation, l'habitat, la santé sont des questions qui sont considérées comme cruciales pour maintenir la cohésion sociale et nationale chinoise. Donc effectivement, ça les amène à se projeter. Et comme on l'évoquait d'ailleurs, la grande stratégie de Nouvelle Route de la Soie a pour fonction de faire venir en Chine les ressources dont la Chine a besoin, et notamment les ressources alimentaires. Et moi, ce que je constate en lisant les travaux d'un certain nombre de spécialistes, c'est que la Chine fait d'importantes réserves de céréales. La Chine a actuellement, je crois, accumulé pour près de 2 ans de greniers à blé. Par ailleurs, la flotte de pêche chinoise est une espèce de monstre de plusieurs milliers de bâtiments. En fait, personne n'en connaît le nombre réel. Et cette flotte de pêche est littéralement un outil paramilitaire suivi de très près par la marine nationale chinoise, qui se répand sur tous les océans et qui fait de la surpêche absolument partout. Alors, d'un point de vue non chinois, on trouve que c'est une façon de faire qui est prédatrice, et c'est bien sûr le cas. Mais il faut comprendre la logique chinoise. Et la logique chinoise, c'est qu'il faut des protéines pour 1,4 milliard de personnes. Et que l'intérêt national chinois passe par la projection sur tous les océans de cette flotte de pêche, que l'intérêt national chinois passe par le fait d'avoir des greniers à blé qui font qu'ils achètent du blé au monde entier, ils achètent du blé à la Russie, que les pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande sont font l'objet de particulières attentions par la Chine parce que ce sont des grandes zones de riziculture et donc d'importation. Et par ailleurs, la Chine cherche à se développer très très rapidement en termes d'intelligence artificielle, de façon à optimiser les flux, le rapport aux ressources, etc. Je ne dis pas que ce soit bien, hein, c'est pas mon propos, je dis juste que c'est la stratégie qui est développée par les Chinois. La Chine a compris qu'on était dans un monde fini. Et simplement, elle cherche à assurer son développement tout au long du 21e siècle dans ce monde qui est un monde aux ressources finies.
Avec des guerres pour l'accès
avec
à l'eau, pour
de
l'accès
la coercition,
aux...
des guerres, etc. Mais la Chine pense en termes d'intérêt national.
Donc on voit qu'il y a une problématique sur l'eau, une problématique sur l'agriculture avec enfin la pyramide de Maslow, en fait, il faut partir de ça. Et on va revenir aux besoins primaires assez rapidement qu'on va avoir oublié dans certaines zones. Et on voit que même les pays développés ne sont pas à l'abri. Évidemment, il y a des tensions qui sont liées aux récoltes qui sont beaucoup plus fortes. Et on l'a vu avec les printemps arabes qui coïncidaient aussi, je crois, avec une période de tensions agricoles. Enfin, on voit qu'il y a un lien entre des tensions internes, des conflits, etc. Est-ce que des grands pays développés sont aussi profondément à risque par rapport à ce qui arrive? On peut prendre l'exemple de... J'aimerais qu'on parle de l'Europe aussi à un moment donné, mais... On voit que les États-Unis ont des fortes sécheresses, on voit qu'il manque énormément d'eau en Californie, qu'ils sont en train de pomper tout en nappe phréatique et que voilà, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Est-ce qu'on va sur des risques de guerre civile, sur des risques de déstabilisation massive à cause de migration? Et comment est-ce que, encore une fois, c'est anticipé?
En fait, ce qui est très frappant quand on regarde les États-Unis, sous cet angle justement... risque géopolitique, risque climatique, c'est qu'on voit à quel point il y a une vulnérabilité qui est assez stupéfiante.
Okay.
Parce que le sud des États-Unis, effectivement, manque d'eau, mais manque d'eau de façon drastique. Hein, comme on l'évoquait, le Midwest et le Sud-Ouest, qui sont quand même de très grandes zones de production agricole, sont en état de méga sécheresse totalement historique depuis une grosse dizaine d'années. Les sols sont très abîmés. Les écosystèmes sont très abîmés. Par ailleurs, le choix du développement de l'exploitation des gaz et pétrole de schiste nécessite une énorme consommation d'eau. Par exemple, la reprise de l'exploitation des gaz et pétrole de schiste au Texas se fait par l'exploitation, je crois, 1 million de litres d'eau par jour. Et pour l'instant, la gestion qui a été décidée, c'est d'exploiter les aquifères texans jusqu'à épuisement, plus ou moins autour de 1070. Ce qui évidemment induit des tensions de plus en plus fortes autour du rapport à la ressource en eau dans un univers climatique de plus en plus déstabilisé. En d'autres termes, le sud des États-Unis s'aridifie tandis que un certain nombre de choix de développement économique et énergétique font que l'eau en sous-sol est surexploitée. Donc à un moment donné, il y aura plus d'eau. Partant de là, que va-t-il se passer? Moi, j'en sais rien. Mais ce que j'observe, c'est que l'Amérique centrale, qui est alors là littéralement desséchée, eh bien, l'Amérique centrale devient une zone de départ avec des dizaines, des centaines de milliers de gens qui quittent l'Amérique centrale et qui traversent le Mexique et qui arrivent aux États-Unis. Quand on parle de crise migratoire aux États-Unis, il faut avoir à l'esprit que, en ce moment, 20 à 30 000 personnes entrent aux États-Unis par jour. Donc, c'est du 200, 250 000 personnes par mois, ce qui, évidemment, a des effets très déstabilisateurs et qui, en 2024, vont être d'autant plus déstabilisateurs que c'est en train de devenir un thème majeur de la campagne présidentielle américaine, qui va être extrêmement dur. Par ailleurs, ça fait déjà une vingtaine d'années que les États qui sont traversés par les grands fleuves, que ce soit le Mississippi d'un côté ou le Colorado de l'autre, se disputent de plus en plus l'accès à la ressource hydrique. Donc, si on transpose ce qui se passe en Amérique centrale, on peut se dire qu'à un moment donné, la crise hydrique au sud des États-Unis peut se manifester sous la forme de déplacements internes de populations qui peuvent être gigantesques, et qui iront vers les zones où il y a de l'eau, c'est-à-dire par exemple la région des Grands Lacs. Le problème étant que les Grands Lacs sont très abîmés, très pollués. Hein. Donc,
Mais ça, ça n'est pas du tout... Enfin, c'est-à-dire que ça peut être anticipé comme un risque de sécurité interne.
Oui.
On a vu que, j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui travaillent dessus, qui font tout des scénarios là-dessus. Mais on n'a pas l'impression qu'il y ait des changements fondamentaux dans les politiques énergétiques, dans la politique agricole, ou qui vise à limiter le problème. Ou alors, est-ce qu'ils sont en train quand même de se pencher là-dessus et de limiter l'usage de l'eau, etc.
Alors, les États-Unis, c'est un monde mosaïque, extrêmement complexe. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un État central, hein, donc il n'y a pas des grandes politiques qui décident de faire ceci ou cela. En revanche, il y a énormément d'expérimentations. Il y a énormément de villes, de counties, d'États qui sont en train de se pencher sur ces questions et qui expérimentent, qui se demandent comment s'adapter, comment privilégier telle culture plutôt que telle autre, comment on va renouveler les usages de l'eau, etc. Donc, on n'est pas du tout dans un univers de certitude. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des questionnements qui sont présents et qui font l'objet d'un gros travail. Moi, un de mes exemples favoris, parce qu'il est très contre-intuitif, c'est ce qui se passe au sein de l'armée américaine. L'armée américaine est un des hauts lieux de recherche-action sur le développement durable et l'adaptation au changement climatique aux États-Unis. C'est dû au fait que quand l'armée américaine occupait l'Irak de façon massive entre 2003 et 2010, très vite, les différentes bases américaines qui étaient sur le sol irakien ont fait l'objet, devaient être alimentées en kérosène, en alimentation, etc. Et les convois ont fait l'objet d'énormément d'attaques par les différentes guérillas qui étaient présentes sur le sol irakien. Et des chercheurs militaires du Pentagone se sont dit, si on renversait la problématique, et si on essayait de développer l'autonomie de nos bases, comme ça il y aura besoin de moins de convois, et donc ça fera moins de cibles. Et donc, ils se sont mis à développer l'efficacité énergétique sur un certain nombre de bases, ils se sont dit, on est en Irak, il y a du soleil, on va développer le photovoltaïque, etc. Ça a très très bien marché. Et ça a tellement bien marché que ces politiques en fait de transition énergétique et de développement durable ont été installées à l'échelle de toutes les bases présentes sur le sol irakien. Et quand en 2010, l'armée américaine a quitté en grande majorité l'Irak et est revenue aux États-Unis, eh bien elle est revenue avec tout ce capital d'expérience et de savoir-faire. Et les bases américaines sont devenues des hauts lieux de développement des énergies renouvelables, de la protection de l'environnement, etc. C'est très étonnant. C'est d'autant plus étonnant que le public militaire est un public qui est politiquement conservateur. Alors que le parti républicain qui représente largement le vote conservateur est un parti qui est largement climato-sceptique. Et là, en fait, y a une espèce de bug géant qui se traduit, par exemple, par le premier secrétaire d'État à la défense du président Trump, qui était l'ancien chef d'état-major du corps des Marines, expliquant à une commission sénatoriale que, ah oui, il connaissait très bien le changement climatique, qu'il s'y adaptait, qu'il le prenait en compte, que les bases américaines devaient s'adapter, etc. Donc on est dans un univers, l'univers américain est un univers en crise et en recherche.
Et l'Europe, je voudrais qu'on parle, on en a très peu parlé finalement, mais...
L'Europe est en train, depuis le printemps 2023, est en train de prendre le changement climatique de plein fouet, avec une violence, je pense, qui n'était pas encore connue. Vous évoquiez l'agriculture espagnole. L'agriculture espagnole, effectivement, va mal, très mal. Si j'ai bien les chiffres en tête, ils ont perdu près de 70% de leur récolte au printemps, au printemps 2023 du fait de la sécheresse. La Grèce et l'Italie ont des problèmes très analogues. Les Espagnols en sont à devoir importer des tomates de Hollande. Le tout dans un univers agricole européen qui est sous très haute tension parce que l'Union européenne a développé les importations de céréales ukrainiennes de façon à soutenir l'économie ukrainienne qui est plus que chancelante, ce qui déclenche de grosses tensions avec les agriculteurs des différents pays européens, notamment la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, qui voient arriver des céréales ukrainiennes qui sont en concurrence avec leur propre production. Et donc, ce croisement du risque climatique et agricole avec le risque géopolitique, eh bien, tout simplement, vient soutenir les tensions politiques qui traversent l'Union européenne. Et là, je tends à penser que 2022-2023, eh bien, l'Europe est en train de basculer de plein pied dans cet univers où les questions de climat et les questions de sécurité entrent en fusion.
Comment c'est discuté au niveau des États, au niveau européen? Là, pareil, est-ce que c'est pris au sérieux? Est-ce que c'est suffisamment anticipé? Est-ce qu'on voit des plans qui se mettent en place pour réfléchir aux questions migratoires, aux questions de sécurité intérieure? On a vu qu'en France, il y a déjà des débuts de conflits, même si ça reste comparé à ce qui se fait ailleurs, finalement assez léger. Mais on a vu autour de l'eau, à Sainte-Soline, par exemple, l'espèce de bataille rangée impressionnante quand même pour une ressource... On voit des débuts de conflits entre les agriculteurs et puis des écologistes, etc. Tout ça se met en place et on a le sentiment, en tout cas vu d'où je suis, que ça suit son cours sans qu'il y ait fondamentalement une prise en compte de ces risques-là de manière sérieuse. En tout cas, on entend très très peu parler.
C'est-à-dire que là aussi, il y a...
Comme en Espagne, par exemple, est-ce que l'Espagne, qui a vu 80% ou 70% de baisse de ses rendements, est en train fondamentalement de réinventer son modèle? Est-ce que... voilà.
D'ailleurs, on pourrait rajouter aussi l'Irlande, qui a perdu, je crois, 90% de sa récolte de pommes de terre, ce qui doit leur rappeler de très très mauvais souvenirs. Alors là, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la question de la temporalité. C'est-à-dire que les institutions européennes, comme les États, sont en train de découvrir, de faire l'expérience de ce basculement dans un autre monde, un autre univers, ce qu'on appelle l'anthropocène d'ailleurs. Et ensuite, l'adaptation institutionnelle et, j'ai envie de dire, mentale à ces nouvelles conditions, elle peut pas se faire d'un claquement de doigts. De même que la remise en cause des grands modèles agricoles, économiques, urbains, ce qu'on veut. Sur le papier, on peut toujours se dire « il faut le faire ». Bien sûr qu'il faut le faire, mais ça se décrète pas. On change pas de modèle comme ça, ça va prendre du temps. L'enjeu, déjà, c'est une prise de conscience, j'ai envie de dire, mentale et politique de ces enjeux. Alors déjà... Ce qu'on peut voir, c'est que il y a déjà un certain nombre d'institutions européennes qui commencent à intégrer la question de climat et sécurité. On voit que un certain nombre d'États et de ministères se disent mais il va vraiment falloir commencer à intégrer tout ça. Mais j'insiste sur le fait que, pardon pour la caricature, hein, mais les États, c'est pas des Xbox. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour changer de paradigme. Et là, il va certainement y avoir de grosses évolutions, mais elles ne se feront pas simplement, ce qui est normal.
Et on voit que l'Europe est plutôt mal en point par rapport à d'autres territoires, parce qu'il y a très peu de ressources. Alors on peut se dire peut-être qu'en termes de climat, ça peut-être aller moins vite qu'ailleurs, et encore, je pense que c'est discutable, puisque le bassin méditerranéen, notamment, est quand même largement à risque. et qu'on anticipe mal un certain nombre de choses, quelles que soient les régions, mais on a vu qu'il y a des inondations majeures, qu'il y a tout un tas de choses aussi qui viennent toucher les pays européens. Mais il n'y a pas de ressources, il n'y a pas beaucoup de ressources de minerais pour tout ce qui va être transition énergétique, il n'y a pas beaucoup de gaz ni de pétrole. Et on voit aussi que viennent se heurter parfois des ambitions écologiques et des ambitions économiques ou des ambitions liées à la souveraineté, notamment en ressources. Et c'est typiquement les types de discussions qu'on peut avoir autour d'un sujet comme le rôle de Total, qui va nous répondre que bah oui, il s'agit d'assurer le futur énergétique et donc la souveraineté de la France, mais que de l'autre, on sait qu'il faudrait arrêter de consommer du pétrole, etc. Comment est-ce que vous voyez le débat évoluer et ces grandes questions-là se percuter entre problématique de sécurité, de souveraineté et cette problématique écologique finalement?
Alors, quand on dit que l'Europe a peu de ressources, ensuite ça dépend de quel type de ressources on parle. Par exemple, l'Europe, heureusement, est une grande puissance agricole, ce qui est important. Maintenant, effectivement, l'Europe traverse une crise énergétique majeure, du fait notamment de la fin de l'approvisionnement en gaz russe et de la nécessité d'importation de gaz naturel liquéfié ou de gaz d'Azerbaïdjan, etc. Par ailleurs, on voit qu'il y a des politiques ambitieuses en termes de redéveloppement du parc nucléaire, ce qui va poser là aussi la question de quel approvisionnement en uranium. Si on se rappelle que, par exemple, 15% de l'uranium utilisé par les centrales françaises venait du Niger et que le Niger ne veut plus de la présence française, on voit bien que les ambitions énergétiques en Europe et les évolutions géopolitiques dans le reste du monde entrent en percussion. C'est aussi pour ça que il va être intéressant de voir si la problématique de la transition énergétique devient une problématique stratégique. C'est-à-dire, quand je dis stratégique, ça veut dire une problématique dont la finalité est politique. C'est-à-dire comment on assure la continuité de l'approvisionnement énergétique de la France et d'autres pays européens avec un bouquet énergétique beaucoup plus élargi. Et c'est là qu'on voit que les questions de transition énergétique, de souveraineté, sont devenues complètement indissociables des enjeux liés au risque climatique. Si on déplace un peu le regard, d'ailleurs, on voit que le risque climatique, il est aussi de se transposer très vite dans un autre domaine qui est celui de l'assurance. Vous prenez le Pas-de-Calais. On a quand même tout un département qui est victime d'inondations géantes trois fois de suite en trois mois depuis le mois de novembre, avec beaucoup de dégâts, beaucoup d'infiltrations, etc. Ça va poser beaucoup de questions aux assureurs. Dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis, les assureurs sont en train de se retirer d'un certain nombre d'États ou d'un certain nombre de zones, etc. Ce qui fait que soit les personnes et les collectivités sont laissées à elles-mêmes, soit l'État devient assureur de dernier recours. Mais ça nous dit aussi que l'adaptation au changement climatique et, j'ai envie de dire, l'adaptation à la transition énergétique vont soit être considérés comme des enjeux stratégiques avec les mobilisations qui ont lieu quand un État définit un enjeu stratégique, ou pas. Enfin, il y a beaucoup de signaux qui indiquent qu'on va vers une compréhension stratégique de ces enjeux.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets majeurs là dont on n'a pas parlé, qu'il faut qu'on ait en tête pour comprendre ce qui va se jouer dans les années qui viennent? On n'a pas parlé de l'Arctique, on n'a pas parlé,
il y a plein de choses qu'on peut aborder. Moi, comment dire? Pour moi, un enjeu, un débat qui va être absolument majeur, c'est la question de que fait-on? C'est-à-dire la question de la tentation de la solution technique. Je vois monter très fortement le débat et la recherche, et la recherche fondamentale et la recherche-développement, par exemple, sur la question de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est tout un panel de technologies qui vise à réduire l'impact du changement climatique, par exemple en installant une espèce de parapluie de
miroirs,
d'aérosol en haute atmosphère ou de miroir. Alors moi, ce que je trouve fascinant avec les enjeux de géo-ingénierie, c'est qu'ils sont produits par les grands centres de recherche, notamment américains, qui ont produit la bombe nucléaire, la bombe thermonucléaire, les missiles balistiques. Et c'est assez cohérent parce que ce sont donc des grands centres de recherche qui ont l'habitude des méga-projets. Ça veut dire aussi que la géo-ingénierie, par définition, ça va être des technologies duales, c'est-à-dire civiles ou militaires, qui peuvent avoir des usages divers. Le problème avec ces approches, c'est que ça résout rien du tout. Ça permet de masquer les effets du changement climatique pendant un temps. Ça n'atténue rien, ça n'adapte rien. Donc, est-ce que s'il y a un recours à ces technologies parce que l'emballement climatique finit par avoir des effets tellement violents et tellement rapides qu'il faut en passer par là, c'est une chose? Mais dans ce cas, il faudra qu'on soit très attentif à ce qu'il y ait un débat, il y a un débat international sur le fait que, comme vous l'évoquiez, ces solutions sont vraiment éphémères et ne doivent permettre de gagner que le temps nécessaire pour lancer des vraies politiques d'atténuation et d'adaptation, mais aussi de relocalisation, parce que malheureusement, le niveau de l'océan va continuer à monter, quoi qu'il se passe. Donc, l'enjeu, c'est vraiment comment penser la civilisation qui vient, parce que si on ne la pense pas, on va perdre des ressources à essayer de faire des gadgets à droite à gauche, de résoudre les crises qui vont se multiplier, sans se demander comment, en termes de civilisation, l'humanité se projette dans le 21e siècle. Et là, il y a vraiment un enjeu de fond.
Alors, qui pense ça? Puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'instance internationale.
Il n'y a pas d'instance internationale et l'humanité n'est pas une catégorie politique.
Voilà.
C'est pour ça qu'il faut que ces enjeux rentrent dans les débats nationaux. Et là, vous évoquiez Sainte-Soline. C'est fascinant ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Parce que on était quand même, si je me souviens bien, dans les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, c'est pas aride, normalement. Et ça a été un conflit autour de l'installation d'une bassine par des gros agriculteurs, donc une rétention d'eau, qui a débouché sur un conflit quand même rude entre des mouvements écologistes, des black blocs, des gendarmes, des militants écolos, etc. Et en fait, ça a été une petite bataille à plusieurs acteurs, ce qui est rare, hein. C'est vraiment rare. Essayons de nous demander ce qui se passerait si en France, pendant quelques années d'affilée, on avait une grosse crise de l'eau qui multiplierait les Saintes-Solines. Mais dans ce cas, on serait dans un univers de lutte de tous contre tous pour l'accès à la ressource en eau. C'est un problème qui doit être anticipé.
Mais donc on n'est pas sur une question de civilisation, on est sur une question de résilience territoriale, résilience sociétale, d'être capable de maintenir l'accès aux ressources pour tous, de répondre aux besoins primaires de la pyramide de Maslow pour tous, territoire par territoire finalement, puisque étant donné qu'il n'y a pas d'endroit où on peut décider de la suite à donner notre civilisation, et qu'on voit bien que ce sont aujourd'hui même de plus en plus finalement des intérêts privés qui décident de ça, qu'on est pris là-dedans dans cette course à la croissance, au toujours plus d'innovation, etc. où se posent ces questions-là, en fait? À quelle est la bonne échelle pour se les poser?
Par exemple, elle est ici. C'est-à-dire que la question, c'est pas où, la question, c'est qui. Mm-hmm. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis très heureux de participer à cet échange avec vous. C'est-à-dire que les échanges sur ces enjeux, ils doivent avoir lieu un peu partout et à toutes les échelles. Par ailleurs, bien sûr que c'est un enjeu de civilisation. C'est-à-dire que quand il y a des tensions qui traversent toute une société, que ça déclenche des conflits, des recours à la violence un peu partout, bien sûr que c'est un enjeu de civilisation. Moi, j'aime beaucoup les travaux du sociologue Norbert Elias, qui en prolongeant ceux de Max Weber, met en évidence que le processus de civilisation, c'est le processus durant lequel la tolérance, le niveau de tolérance à la violence baisse. Si le niveau de tolérance à la violence augmente, on a un vrai problème de civilisation. Et donc l'enjeu qui va traverser le XXIe siècle, et l'enjeu stratégique, c'est comment maîtriser la violence tout en maîtrisant le changement climatique.
Vaste sujet.
Vaste sujet.
Dernière question. Est-ce que vous avez deux livres à recommander en particulier? Pas forcément sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. C'est deux livres qui vous ont particulièrement marqué pour vivre notre époque. Ou une ou deux expériences à vivre. Pas forcément intellectuel.
Alors, je vais commencer par un roman. À lire, à relire, à re-relire, c'est bien sûr Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est un livre qui pose la question de peut-on survivre au désenchantement du monde, c'est-à-dire au règne de la machine, et qui est une question qui est posée avec beaucoup de profondeur et beaucoup de poésie dans une langue extraordinaire. Donc, lire, relire, re-relire Le Seigneur des Anneaux et le méditer. Par ailleurs, pour s'imprégner du sentiment d'urgence que j'évoquais, je conseille la lecture un peu rude du livre de David Wallace Wells, La Terre inhabitable. Wallace Wells, il a sorti son bouquin en 2020. Il va au bout des raisonnements sur la crise bioclimatique et pose très bien les enjeux en disant, voilà, si... si les processus du changement climatique et de la crise de la biodiversité ne sont pas maîtrisés, on va vers une terre qui sera inhabitable dans quelques dizaines d'années. Donc, moi, je conseillerais vraiment ces deux livres. Par ailleurs, pas plus tard qu'hier, je discutais avec mon ami Sébastien Fatt, qui est un de nos très grands sociologues des religions, et qui a passé 15 jours au Sud-Soudan, et qui m'expliquait qu'en fait, le Sud-Soudan, qui donc a connu une guerre épouvantable, une guerre civile épouvantable, et qui se débat avec les effets du changement climatique, eh bien, c'est littéralement ce que l'on appellerait ici un monde post-apocalyptique.
Mad Max.
Un monde post-apocalyptique, où justement, ben, les gens font très attention à l'usage des ressources, sont dans les circuits courts, font de la low-tech, etc. Et je pense qu'il y aurait des équipes entières de chercheurs à envoyer au Sud-Soudan pour voir comment on s'adapte à la contrainte. Parce que la contrainte, qu'on le veuille ou non, elle est en train de revenir.
Merci beaucoup Jean-Michel. Merci pour votre temps.
Mais c'est moi Julien.
Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cette conversation vous aura plu, peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux. Je suis Julien de Vorex, je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir. Si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps, pensez à me soutenir via un don, même un euro, ça compte, ça me permet de financer mes outils de production, par exemple. Et sinon, vous pouvez simplement parler de Sismique autour de vous ou via vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le Discord, vous abonner à Sismique sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des informations complémentaires sur les épisodes et mon opinion sur certains sujets, ou encore vous procurer mon livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien » aux éditions First. Tous les détails et tous les liens sont sur sismic.fr comme d'habitude. Merci pour votre curiosité, merci pour votre soutien et à bientôt.
Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?